Le titre du message ce matin, c'est tout simplement « Au commencement ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et ce matin, cette parole, nous l'avons prononcée. Nous avons parlé à notre Seigneur et à notre Maître. Tout au long de la vie chrétienne, certains et certaines s'interrogent quant à savoir s'ils marchent dans les voies de Dieu, comme nous l'avons chanté aussi, et suivent la volonté du Seigneur. Est-ce la voix de Dieu que j'entends? Est-ce l'ennemi? Est-ce ma chair? Est-ce la voix de ma conscience? Est-ce mon héritage qui me parle, qui me fait dire telle ou telle chose ou agir comme cela? Est-ce mon éducation qui me conduit dans certaines voies? Est-ce mes us et coutumes liés à mon pays qui me dirigent dans telles ambitions? Ou tout simplement, est-ce ma volonté seule? Et que fais-je du Seigneur? Comment comprendre Dieu? Comment l'entendre? Comment est-ce que le Seigneur parle? Comment savoir si je ne me fais pas avoir ou si c'est ma volonté qui me dirige? Est-ce la voix de l'Esprit que je suis? Est-ce la voix de l'Esprit que j'entends? Dieu parle-t-il que par la Bible ou pas? Dieu parle-t-il par mes frères et sœurs ou pas? Dieu parle-t-il par les incroyants ou pas? À travers ces trois exemples, nous allons essayer d'avoir un début de réponse. Si savoir, Dieu parle toujours, ou s'il reste silencieux. En étant chrétien, une seule parole. Nous confessons la parole de Dieu, nous protestants, une seule parole, une seule écriture, la voix du Seigneur, la Bible. En étant chrétien, un seul conseil, celui que me donnent mon frère et ma sœur, tiré de ce livre, la Bible. Un seul conseil, celui du pasteur, qui est censé à lui seul représenter les 66 livres de la Bible, donc nous pouvons aller puiser les conseils autour de lui et auprès de lui, mais il ne sait pas tout. Pourquoi demander à Dieu, après tout, et un pasteur? Pourquoi demander au pasteur et les frères et sœurs? Pourquoi demander aux frères et sœurs, puisque moi-même, je possède ce livre qu'est la Bible et que je peux y trouver la parole de Dieu. Parole qui répondra à mes interrogations. Moi aussi, j'ai ce fameux livre. Tout c'est pourquoi. Et si tout simplement je faisais comme Jésus l'a dit à Jean, laisse faire, arrête tes interrogations, arrête tes réflexions, arrête de te creuser la tête. Laisse faire. Ok, je laisse faire. Comme ça fait du bien. Comme ça fait du bien de ne pas se poser de questions. Comme ça fait du bien d'écouter les conseils, oui, mais des conseils qui viennent parfois tirer d'un livre, et des conseils, malheureusement, qui peuvent être différents d'une personne à une autre. Mais donc Dieu, par qui va-t-il parler? Par les païens? Par les incroyants, par les débauchés, par les adultères, par les sans-Dieu, Dieu va-t-il parler par eux? Bien sûr que oui. Oh que oui. N'est-ce pas lui qui a formé les mots et la bouche? N'est-il pas le Verbe incarné? N'est-il pas celui qui dit une parole et tout est créé? N'est-il pas celui qui peut réconforter quand nos oreilles sont sourdes à sa voix? Il emploie d'autres intermédiaires. Oui, il parle par les sans-Dieu, par ceux qui lui sont rebelles et insoumis. Il est capable d'utiliser beaucoup de monde, beaucoup de personnes que l'on ne soupçonnerait le moins. Mais dans quel but? Peut-être parce qu'on est trop occupé à chercher, à se questionner, à s'interroger. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que ce qu'on m'a dit est vrai? Et si je fais ça? Non, je ne vais pas le faire. Moi, si je vais le faire quand même, c'est certainement la voie de Dieu. Quelle décision je vais prendre? Seigneur, aide-moi à prendre cette décision. C'est ta voix. Non, c'est peut-être pas, en fait, qui me parle. Ça fait du bien, des fois, de laisser faire. Et c'est ce que dit Jésus. Laisse faire. Dans le livre de Josué, au chapitre 2, verset 1, nous lisons « Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Chittim deux espions en disant « Allez voir le pays de Jéricho. » Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée, dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. » Waouh ! Dieu parle-t-il par les adultères, les débauchés? Mais là, il va parler par une putain, une prostituée. Waouh! Et nous, en tant que chrétiens, avec nos a priori. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, hein? Waouh! Et ces deux hommes, serviteurs de Dieu, ils vont loger où? Chez une putain. Waouh! Serviteur de Dieu qui loge chez une prostituée. Pourquoi? Pour consommer? Pour profiter de ses services charnels? Non, juste pour dormir. Trouver une tête pour reposer leur tête. Un lit. Waouh! Quand j'ai écrit ce message, je vais vous dire, hein, une bonne claque. Une prostituée. Dieu parle par une prostituée. Par son fille, sa fils, non par une prostituée. La première personne que l'on rencontre en terre promise au moment d'y entrer, c'est Rahab, la prostituée. Première personne de la terre promise. Là encore, waouh! Ça aurait pu être un serviteur de Dieu, quelqu'un qui rendait des cultes. Non. Une prostituée étrangère de Jéricho. Josué envoie ses deux éclaireurs qui arrivent à Jéricho, première ville de terre promise traversée par le Jourdain, pour préparer un peu le terrain. Ces deux hommes se logent chez Rahab, la prostituée, et Rahab comprend tout de suite qui ils sont et qui est leur Dieu. Elle a entendu parler de ce Dieu. Josué, chapitre 2, versets 9, 10, 11. Elle dit à ses hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. Nous avons appris que l'Éternel, nous l'avons appris et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut et sur terre, ici-bas. » Et oui, elle commerçait avec son corps. Elle rendait service avec sa chair. Mais elle connaissait, elle avait entendu parler du Dieu d'Israël. Lorsque ces deux hommes arrivent, ils cherchent un endroit où se loger. Certains penseraient, comme je l'ai dit, mais qu'est-ce qui leur a passé par la tête à ces deux serviteurs de Dieu, envoyés par Josué, à aller trouver refuge et logis chez une catin. Est-ce que nous ferions de même, nous, chrétiens, enfants de Dieu? Porterions-nous notre regard sur une personne que l'on pourrait penser dépravée, souillée, ou étrangère aux lois de Dieu. Femme aux tendances légères, à la moralité plus que douteuse, et elle abrite les hommes de Dieu. Que peut-on penser aujourd'hui avec nos a priori, notre sens moral? Oh, c'est pas bien. Bien sûr que si. Dieu l'utilise, Rahab. Et on va voir qui elle va devenir, Rahab. Dieu se sert de qui il veut. Il touche le cœur de qui il veut. Ce n'est pas à nous de juger, mais tout simplement de laisser faire. Rahab était une prostituée. Était-ce son seul moyen de prendre soin de sa famille? Peut-être. Elle aspire au changement, à une vie meilleure. Son pays est rempli de violence, de perversion, de corruption. Les temples servent à la prostitution sacrée. Les cultes sont rendus à des dieux démoniaques. Rahab avait compris que le Dieu d'Israël combattait pour son peuple, qu'il accordait de la valeur aux femmes. Il ne les considérait pas comme de simples objets sexuels que l'on pouvait acheter, vendre, rabaisser et humilier. Rahab avait compris cela par rapport à tout ce qu'elle avait entendu dire du Dieu d'Israël. Et donc l'histoire de Rahab nous montre que personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Il voit chacun de nous. Il examine nos cœurs. Et il est très heureux lorsqu'il y découvre une étincelle de foi, comme celle qui était en Rahab. Sa foi l'a poussée à l'action, comme le dit la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? N'était-ce pas Dieu qui ouvrait une porte, Dieu qui invitait ses messagers sous ce toit par l'intermédiaire d'une prostituée? Qu'en advient-il dans le futur pour Rahab une fois que les Israélites ont pris possession de Jéricho? Ils ont fait un engagement, les deux espions, avec elle. Elle a été sauvée. Elle n'a pas péri. Elle et sa famille, et tous ceux qui étaient sous son toit. Elle a épousé un Israélite, est devenue la mère de Boaz, qui lui, Boaz, a épousé Ruth, un Moabite, de qui est sorti David, et de qui est sorti le Messie d'Israël. Une prostituée fait partie de la généalogie du Christ. Pas, hein. Une femme aux mœurs légères, étrangère aux coutumes, aux traditions, au culte des Israélites, de qui l'on n'aurait suivi aucun conseil. Et pourtant, Dieu a parlé et a accueilli par Rahab la prostituée. Et dans la généalogie de Matthieu, le premier évangile, c'est la première femme qui est citée. Et Jésus n'a-t-il pas dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux? Faisait-il allusion à Rahab, indirectement ou directement? Une prostituée. Ça m'a énormément parlé. Ça transforme et ça change les idées préconçues que l'on peut avoir. Deuxième exemple. Un homme est condamné. Il discute librement de tout et il est prêt à transgresser toutes les règles. Il brise les barrières sociales. Il ne considère pas les malades comme impurs, mais les touche. Il se met à table avec les prostituées et les publicains. Il n'a pas de domicile fixe, la SDF, mais court les rues, entouré des gens de petite réputation. Et pourtant, il revendique une autorité, celle de son Père, celle de Dieu. Il ira même jusqu'à chasser les marchands qui commercent dans le temple. Mais je ne vais pas vous parler de Jésus, parce qu'on sait très bien que Dieu a parlé par lui, il est le Verbe incarné. Non, il y a eu un songe. Un songe qui est montré, qui parle de cet homme, qui accueille, qui rencontre, qui entre en contact, qui agit avec justice, sans se soucier le moins du monde des règles et des exclusions de l'ordre établi. Un homme qui annonce un autre Dieu, un Dieu d'amour. Qui est à l'origine de ce songe? La conscience, la chair, l'ennemi? Dieu, bien évidemment. Tout comme celui de Joseph, celui des mages. Les païens, les hommes sans Dieu, ce sont ceux qui lui sont fermés. Mais Dieu ne se désintéresse pas pour autant d'eux. Certes, il ignore, il ne se soucie pas de lui, mais lui, Dieu, se soucie d'eux. Qu'est-ce qui peut l'empêcher, le Seigneur, de se servir de leur bouche? Il y a un monde de Dieu et un monde sans Dieu. Il y a un monde avec la loi de Dieu et une loi sans Dieu. Il y a le peuple de Dieu et le peuple sans Dieu. Devant le Sanhédrin, Dieu n'avait pas à intervenir. Car les hommes qui avaient l'autorité dans le Sanhédrin connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient la représentation religieuse du Seigneur, du Père. Donc Dieu n'avait pas à intervenir. Ils avaient déjà connaissance de la vérité. Quoique, il l'a quand même fait, par l'intermédiaire de Nicodème. Mais devant un tribunal romain, les choses sont bien différentes. Une loi sans Dieu, un juge païen, un monde qui vit sans lui, qui rend des cultes à plein de divinités, un agresseur, puisqu'Israël était dominé par l'Empire romain. Dieu va-t-il intervenir dans un monde et dans un tribunal qui se passe de lui et qui fonctionne sans lui? Que va-t-il faire? Une femme. Une deuxième femme. Il va intervenir par le biais d'une personne totalement extérieure au tribunal, mais si proche du juge, la femme de Pilate. Là aussi. Si extérieure et si proche à la fois. Elle va recevoir un songe. Que va-t-elle faire de ce songe? Libre d'en parler ou de se taire à tout jamais. Cette femme comprend par ce songe qu'un juste va être condamné. Elle est troublée, agitée. Elle peut se dire, c'est un mauvais rêve, ou un cauchemar. Non, c'est un songe. Un songe qui vient de Dieu. Donc une idée et une pensée persistante qui l'agite, qui la trouble. Une chose étrange lui arrive. Un homme juste va être condamné par quelque chose d'injuste, voire même par quelqu'un d'injuste, son mari. Que va-t-elle faire? Garder ce songe dans son cœur ou en faire part? Attention, c'est le Père qui parle, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il ne se tait point. Quelle responsabilité repose sur cette femme? Garder le silence ou parler? Elle parlera. Pourquoi ce songe est donné à cette femme? Tout simplement pour que Pilate l'écoute. Écoute la voix de son épouse par l'intermédiaire d'un autre, pour qu'il soit indulgent, plein d'attention et plein d'écoute, et donc clément dans sa sentence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que nous avons vu, Rahab a accueilli ces messagers de Dieu, alors que la femme de Pilate accueille ce songe et en fait part, Rahab a mis le pied à l'étrier. Elle a exercé sa foi. Elle a mis en œuvre sa foi. Et la femme de Pilate, touchée par la grâce, waouh, c'est fort, mais que va-t-elle faire de ce songe? Elle dira à son mari qu'il n'y a rien entre toi et cet homme, donc pas de Dieu. Ne te mêle pas de ses affaires. Touché par Dieu, par un songe, touché par la grâce, a-t-elle répondu comme Rahab, la prostituée, qui traînait dans les rues et les bas-fonds. Elle, une femme de haute autorité, des bijoux, des parements, des beaux vêtements, un grand palais, elle dit non à la grâce pour l'instant. Qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. Dieu a parlé par l'intermédiaire de cette femme, la femme de Pilate, mais qui l'a entendu, ou plus exactement, qui l'a écouté, et qui a pris soin de faire ce que Dieu avait dit. Pourtant, Dieu a parlé. Troisième exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. J'ai déjà évoqué, notre dimanche, il y a 15 jours, il me semble, qui était Simon de Cyrène, non pas fils de, mais père de, d'Alexandre et de Rufus. L'homme qui porte la croix du Christ est un père. Il est là dans le silence d'un père. Et pour Christ, c'est le Père qui s'est approché de lui, à travers ce simple être humain. Invisible à travers cet homme visible. Le soutenant à travers le soutien de cet homme, rythmant son pas au rythme du sien et portant ainsi sa croix. Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas une communauté tout entière qui aide à Jésus sur le chemin du calvaire. C'était le père de Rufus et d'Alexandre. Ce n'est ni un ange ni une colombe qui sont descendus du ciel pour venir fortifier Jésus. C'est infiniment plus. C'est le Père lui-même qui s'est approché à travers cet homme, fait de chair et de sang, comme nous. Simon s'est-il aperçu de cela? Simon a-t-il perçu qu'il était un intermédiaire, un envoyé de Dieu le Père? Il peut arriver que quelqu'un soit manifestation de Dieu. Qu'il le sache ou que ce soit son insu. Dieu agit. Simon n'est pas manifestation du Père aux yeux de la foule, aux yeux des soldats, mais il l'est aux yeux de Christ. Le Père qui descend de son ciel de gloire, porter la croix qui pèse sur ses épaules et porter ainsi son fardeau, le soutenir, l'apaiser. Il peut en même en être de même avec nous, une personne proche ou éloignée, connue ou inconnue, peut-être manifestation de Dieu. Sachons faire taire ces rabat-foie qui nous diront que Dieu ne parle pas par les incroyants ou par les païens ou les débauchés, les adultères ou les putains. Sachons faire taire ces frères et sœurs qui n'ont pas compris, mais apportons-leur la connaissance. Faisons taire ceux qui pourraient s'insurger d'une telle manifestation, car ils n'en comprennent pas le sens. Cela ne les touche pas. Ils pensent que nous sommes en danger, mais il n'en est rien. Car nous pouvons dire, comme le Christ le disait, « Le Père est avec nous, donc je n'ai rien à craindre, ni de ceux du dedans, ni de ceux du dehors. » Et Dieu parle par sa parole, par ses serviteurs, par ses enfants, et aussi par les paroles, par les personnes qui ne s'intéressent pas ou peu à lui. Il parle aussi par sa création. En fait, quand on demande au Seigneur, « Seigneur, parle-nous », eh bien Dieu, bonne nouvelle à vous annoncer, il ne cesse jamais de parler. Nous faut-il seulement l'entendre et l'écouter? Il est le Verbe incarné, Jésus. Il est la parole faite chair. Donc, il ne cesse de vouloir se faire entendre. Ne le faisons pas taire. Nous ne le rendons pas silencieux. Lorsqu'il part à travers quelqu'un qui nous surprend, qui ne marche pas dans la même voie que nous, ou qui est contre lui, sachons écouter. Retenons les bribes et les petites miettes qui peuvent parfois nous conduire dans la volonté de Dieu, au travers d'une personne dont jamais on n'aurait soupçonné que le Seigneur pourrait se servir d'elle comme son messager. Dieu a parlé par les œuvres de Rahab. Dieu a parlé par la voix de la femme de Pilate. Dieu a parlé par le silence, par la présence et le soutien de Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Présence empreinte de compassion et d'apaisement aux yeux de Jésus. Dieu parle tout le temps. Et je finirai ce message en disant, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Seigneur, autant cette préparation à ce message a touché ma conscience, m'a interpellé dans mes a priori, dans mes pensées toutes faites, dans une mentalité erronée par rapport à ta parole, par des us, des coutumes, une éducation, un héritage. Oui, un jugement, Seigneur, je faisais fausse route. Ta parole éclaire celui qui veut être éclairé. Ta parole éclaire celui qui veut aimer plutôt que de juger. Ta parole éclaire et se fait entendre à celui qui veut être à ton écoute. Oui, Seigneur, envoie des messagers. Parle par qui tu voudras. Et nous n'aurons qu'une seule chose, Seigneur, comme tu l'as dit à Jean-Baptiste, laissez faire. Oui, Seigneur, mets en nous cet esprit qui fera que nous laisserons faire comme toi tu le décides, comme toi tu le veux. Oui, frères et sœurs, laissez faire. Amen.